Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Lievin Mbwinga à la présentation.
Bonsoir et bienvenue à vous qui nous suivez sur Radio Kapi. Au sommaire de cette édition, débat autour de la révision ou changement de la Constitution. José Ifoku s'invite, la candidate malheureuse à la présidentielle de 2018 et 2023, propose la création d'un conseil national de médiation pour renforcer la cohésion nationale. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis, incroyable histoire que celle d'une fillette de 12 ans tuée par un chien au quartier Mpassa 2, commune de Lancélé, ici à Kinshasa. Une effroyable histoire qui va nous permettre de parler de la gestion de certaines races de chiens dans la ville. À suivre dans ce journal. Protection du parc national de la Lomami, la province du Sankuru s'implique. Le président de l'Assemblée provinciale de cette province l'a déclaré à l'issue des assises de la deuxième édition du comité de coordination des sites. Le député Lambert Makondjo est notre invité. Mais d'abord cette nouvelle, Félix Tshisekedi à Kalemi. Le président de la République est arrivé ce mardi dans cette ville du Tanganyika pour une mission d'itinérance. Après son accueil par la première ministre Judith Suminwa et les membres du gouvernement présents à l'aéroport de Kalemi, le président Félix Antoine Tshisekedi a tenu un meeting devant les nombreux militants de l'Union Sacrée. Pendant près d'une semaine, le chef de l'État aura plusieurs activités sur place, dont la principale reste la 11e conférence des gouverneurs de province qu'il va présider sur place à Kalemi, ainsi que la 23e réunion du Conseil des ministres. Un conseil national de médiation pour renforcer la cohésion nationale, c'est la proposition de José Ifoku sur la problématique de la révision ou changement de la Constitution. Dans une interview ce mardi à Radio Kapi, la candidate malheureuse à la présidentielle de 2018 et 2023 et ancienne gouverneure de province estime que la RDC a besoin d'une vraie renaissance afin d'espérer son développement. Pour elle, le pays n'a pas de problème de texte mais souffre d'une crise de leadership et de gouvernance héritée de plus de 160 ans d'indépendance. Marie-Josée Ifoku est au micro de Michel Kifindangoy.
Quand vous regardez l'histoire politique de notre Congo, c'est entouré des tensions, voire même tribales. C'est entouré des transitions, des débats politiques qui ne regardent que les politiciens eux-mêmes, en fin de compte. Mais rien n'est tourné vers le peuple ou un développement réel. Donc nous, quand nous regardons un tel débat qui revient encore de la révision ou du changement de la Constitution, nous comprenons qu'à un moment donné, ceux qui sont au pouvoir veulent réviser pour des raisons qui sont leurs. Et ceux qui sont hors du pouvoir craignent que derrière cette révision-là, puisse avoir une manipulation ou peut-être que ceux qui sont au pouvoir veulent demeurer plus longtemps que prévu. Donc c'est ainsi que nous, on a dit, faisons les choses dans un cadre, comment dire, légal, qui va nous permettre de réfléchir, de faire entrer tout le monde, pas que les politiciens. Donc que tous les représentants du peuple congolais puissent se retrouver dans cet espace-là pour pouvoir débattre des choses importantes de notre pays. Nous ne pouvons pas nous limiter qu'à la politique politicienne, parce que ça ne nous permet pas d'avancer depuis 1960.
Au chapitre sécurité, activité toujours au ralenti à Kisharo, trois jours après des accrochages entre les rebelles du M23 et les combattants FDLR dans cette entité du Nord Kivu. Mais bonne nouvelle tout de même, des sources à Kisharo confirment le retour timide depuis hier lundi de quelques habitants qui avaient fui vers Nyamilima. Elles déplorent cependant le pillage systématique de plusieurs biens de la population, pillage attribué aux combattants FDLR. Reportage Denise Lukeso.
Un habitant de Kisharo, joint ce mardi matin, confirme que la situation est relativement calme. Quelques écoles ont repris en dépit des activités commerciales qui se déroulent timidement. Cependant, la population vit toujours la peur au ventre, craignant d'éventuels affrontements entre les FDLR et les rebelles du M23. Le week-end dernier, en effet, les combattants FDLR, visiblement venus de Kassav, l'un de leurs bastions, ont attaqué la position M23 à Kisharo, c'était vers 18h. Des échanges de tirs d'environ 4 heures s'en sont suivis, provoquant ainsi un mouvement des habitants vers la cité de Nyamilima, confirme cet habitant. Au cours de cette attaque, selon la même source, les FDLR se seraient livrés aux actes de pillage dans des habitations, pharmacies, boutiques et kiosques. Des biens de valeur, médicaments, vivres et du bétail auraient été emportés par ces combattants. Toutefois, Kisharo reste toujours sous occupation rebelle. Les populations de Binza se disent inquiètes de la situation sécuritaire toujours préoccupante dans leur entité, caractérisée par des accrochages à répétition, ce qui ne permet pas aux habitants d'accéder dans leurs champs, craignant d'être pris entre deux feux. Ils en appellent à l'intervention de l'armée régulière pour leur libération. Goma, Denise Lukeso, Radio Okapi.
Occupation du groupement de Binza par le M23 et allié, une femme leader du territoire de Rutshuru s'inquiète. Il s'agit de Liberata Rubumba, administratrice adjointe honoraire de cette contrée qui est le dernier groupement de la chefferie de Boucha qui n'était pas occupé par les rebelles. Elle déplore les conditions de vie des habitants de ce coin. Liberata Rubumba demande ainsi au gouvernement de faire tout son possible pour récupérer les zones occupées par les rebelles. Madame Liberata Rubumba est au micro de Rosalie Zawadi.
Il y a de nouveaux déplacés qui arrivent à grand nombre en provenance de Binza. Binza, c'est le seul groupement qui restait entre les mains du gouvernement pour le territoire de Rutshuru. Et aujourd'hui, Binza est aussi entre les mains du M23. Et toute la population de Binza est ici à Goma. D'autres sont partis en Ouganda. Nous déplorons cette situation. Nous devenons de plus en plus malheureuses. Et c'est toujours la femme qui est la première victime. Ainsi donc, que le gouvernement fasse tout pour que nous puissions rentrer chez nous et qu'il fasse tout pour récupérer tous les milliers qui sont déjà pris par les M23. À Binza, les villages qui ont été pris récemment, il y a Kiseguro, il y a le village Katiguru, il y a le village de Kisharo, il y a le village de Buganza, il y a le village de Nyamirima et Ishasha aussi. Et voire même Nyakakoma aussi, c'est fait partie du groupement de Binza. Tous ces villages-là sont entre les mains du M23.
Nord Kivu encore, avant de clôturer ce chapitre, Floribert Buanatui Bin Kositi, bientôt béatifié, le pape François vient de lancer le processus. Le souverain pontife a autorisé la béatification de ce jeune et fidèle laïc congolais. Hier lundi 25 novembre, rapporte Vatican News. Né le 13 juin 1981 à Goma, Floribert Buanatui Bin Kositi a été tué dans la même ville le 8 juin 2007. Présenté aujourd'hui à Martin. Il était chef de bureau de l'Office congolais de contrôle, OCC, à Goma, au Nord Kivu, où il était chargé de la qualité des marchandises et d'évaluer la conformité des produits passant la frontière. Des précisions avec Ronly Timbonera.
Floribert Buanatui débuta sa vie professionnelle à Kinshasa comme commissaire aux réclamations au sein de l'OCC. Il fut ensuite transféré au poste de Goma comme chef de bureau de l'OCC. Dans l'exécution de sa mission, Floribert Buanatui est confronté au problème moral d'autoriser l'entrée sur les sols de la RDC des denrées alimentaires venant du Rwanda voisin et qui n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires pour leur commercialisation et leur consommation. Jeune chrétien catholique âgé de 26 ans, il est enlevé puis tué dans la nuit 17 au 8 juillet 2007 pour n'avoir pas cédé à la corruption pour faire entrer ses produits à Goma. Selon des témoignages, Buanatui a préféré mourir en refusant de faire passer de la nourriture qui avait pu empoisonner un grand nombre de personnes. Durant ses années d'études, Buanatui a rejoint la communauté Saint-Égidio. Il a aidé comme bénévole et s'occupait des enfants de la rue. La béatification de Floribert Buanatui intervient après celle des trois autres Congolais, Isidore Bakandja, Marie-Clémentine Anouarite et Albert Joubert. Ces derniers étaient un prêtre de nationalité congolaise, béatifié récemment avec deux de ses compagnons italiens à Uvira.
Nous allons à présent vous raconter une histoire très triste. Il s'agit d'une fillette de 12 ans morte hier lundi à Kinshasa. Elle a été tuée par un chien. Les faits ont eu lieu vers 11h au quartier Mpassa 2, commune de Lancélé, ici dans la capitale. L'enfant est morte dans la parcelle où sa mère travaille comme personnel de maison. Le corps de la fillette est gardé à la morgue de l'hôpital du CNPP à Kinkolé. Mais quel est le sort du chien? En tout cas, il a été abattu et son propriétaire et maître de la maison, lui, est introuvable. Cet exemple lance la problématique de la gestion de certaines races de chiens dans la ville. Moïse Lindombe et Babel Mpongo Massimango pour le reportage.
Ça, c'est ce qu'on peut entendre de la vidéo qui circule. On y voit un chien en train de dévorer sa victime dans son couloir. Les témoins filment la scène, mais n'osent pas s'approcher. Le bourgmestre de Lancélé, Franck Mbonzolamesso, explique les faits.
La fille de la bonne était venue voir sa maman parce qu'on l'avait chassée de l'école et elle voulait aller se soulager. En passant derrière, le chien a attaqué. Il a dévoré la fille. Pour récupérer le corps, il fallait tuer les chiens par balle.
Le bourgmestre parle aussi des mesures prises.
Que tout le monde qui est en train d'élever ce genre de chien, il doit se faire identifier au service des vétérinaires ici dans notre commune de Lancélé. Le gouverneur avait déjà interdit d'élever ce genre de chien. On est en train de chercher comment récupérer les responsables de ces chiens.
Ceci n'est pas le premier cas du genre à Kinshasa. En février 2023, un chien de race avait également tué un enfant de 2 ans au quartier 4 dans la commune de Njili. Un autre s'était attaqué à un enfant lui rognant l'arrière du crâne dans la commune de Ngaliema. Heureusement, cette fois-là, l'enfant a pu être sauvé. Ces cas interpellent d'autres Kinois qui voient des voisins promener leurs chiens dans les rues. L'un d'eux témoigne.
Presque chaque jour, un voisin relâche aux alentours de 22h 3, 4, 5 chiens. Ces chiens circulent les avenues, ça fait tellement peur au quartier.
Impuissants, ces Kinois demandent aux autorités communales et provinciales de les sécuriser.
Autre actualité, ambiance particulière à Bukavu ce mardi avec ce sit-in des membres de 10 coopératives d'épargne et de crédit ainsi que de 2 banques. Cela s'est passé devant la Banque centrale du Congo. Toutes ces coopératives d'épargne ainsi que les 2 banques sont tombées en faillite entre 2010 et 2014. Les manifestants réclament environ 50 millions de dollars américains de leur épargne disparue dans la faillite de ces institutions. Ils espèrent recouvrer leur mise à travers le plaidoyer de la banque de tutelle. Jean Samy a suivi les manifestants devant le bâtiment de la direction provinciale de la Banque centrale à Bukavu. Suivez son reportage.
Des chants de déception et d'interpellation envers les autorités ont été scandés par un échantillon de victimes regroupées devant la représentation de la Banque centrale du Congo à Bukavu. Janvier Misokabare, leur porte-parole est catégorique.
C'est au fait la Banque centrale qui prend les choses en main. Parce que c'est elle d'abord qui donne les autorisations à toutes ces institutions, à toutes les banques, qui fonctionnent comme des bras de la Banque centrale du Congo. Alors, en cas de problème, c'est auprès de la Banque centrale qu'il faudra s'adresser. Ici, on ne réclame que entre 50 et 60 millions de dollars américains. Les slogans du chef de l'État doivent quand même aller jusqu'au bout. L'état des droits.
L'espoir de trouver une solution repose sur la Banque centrale du Congo, oui, mais les instances judiciaires et parlementaires sont aussi mises à contribution.
Certains députés nationaux sont en train de se saisir de la question. Et d'ici là, il y aura une question orale à son Excellence Madame le Gouverneur pour qu'elle vienne quand même s'expliquer devant les élus du peuple.
Le directeur de la Banque centrale du Congo à Bukavu réserve tout droit de réponse à sa hiérarchie nationale. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Exploitation de l'or en Ituri, la coordination provinciale de la société civile demande la suspension pure et simple de cette pratique. Et pour cause, cette structure citoyenne et certains acteurs politiques estiment que l'exploitation de l'or contribue à pérenniser les conflits armés en Ituri. En plus, les différents groupes armés contrôlent plusieurs sites miniers, surtout dans les territoires d'Irumu et de Djougou, où ils perçoivent des taxes et redevances, ajoute-t-il. Face à ces défis, la société civile demande au gouvernement de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'exploitation de l'or dans cette province. Le reportage est signé Isaac Remoyope et il est rendu par Jean-Claude Lokidile.
Presque tous les groupes armés locaux en Ituri, FRPI, MAPI, ZAIR, CODECO, FPIC et le groupuscule Mai Mai contrôlent des localités minières notamment Dala, Mbijo, Yedi, Bavi, Nizi. Tous les creuseurs artisanaux qui exploitent de l'or dans leur rayon d'action sont obligés de prélever une partie de minerais en contrepartie de taxes. Selon la société civile, des dizaines de coopératives minières financées par des expatriés chinois y travaillent avec des machines modernes. Elles versent des sommes colossales aux leaders de ces milices, ce qui alimente les conflits et est à l'origine des affrontements entre ces groupes armés pour le contrôle des sites miniers. La société civile demande au gouvernement de suspendre l'exploitation de l'or en attendant que l'autorité de l'État ne soit restauré dans cette région, Dieu donné l'eau sainte.
Ces Chinois, soutenus par le gouvernement, parce qu'ils sont gardés par nos forces armées, ils sont gardés par la police nationale congolaise. Nous avons dit que c'est anormal parce que ces militaires, ces policiers, au lieu de sécuriser la population civile, elles sécurisent les Chinois parce qu'ils ont l'argent.
La coordination provinciale de ces civils ajoute que ces minéraux ne profitent pas à l'État congolais. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Écran noir depuis ce mardi matin sur Joliba TV au Mali. La chaîne privée a cessé d'émettre sa licence lui ayant été retirée par la haute autorité de la communication. Cela après la tenue d'une émission au cours de laquelle des propos doutants de la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso ont été balancés.
L'invité.
La province du Sankuru s'engage dans la protection du parc national de la Lomami et sa biodiversité. Le président de l'Assemblée provinciale l'a dit le week-end dernier à l'issue des assises de la deuxième édition du comité de coordination des sites Kokosi élargi Maniema Sankuru Chopo organisé par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Le député Lambert Makonjo est notre invité. Il s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Monsieur le député Lambert Makonjo, bonjour.
Bonjour madame.
Après avoir participé à la deuxième édition du Kokosi élargi de l'ICCN, quel est le point de vue de la province du Sankoro à ses assises?
Nous sommes contents que les organisateurs, le PNL et l'ICCN puissent inviter la province du Sankoro. La population du Sankoro n'est pas encore largement sensibilisée sur les activités de l'ICCN chez nous. C'est ainsi que nous sommes satisfaits lorsque l'ICCN intègre cela dans son plan opérationnel de 2025 pour élargir les sensibilisations et commencer à intégrer la province du Sankuru pour que la province du Sankuru puisse ressentir les retombées des activités que mènent l'ICCN et ses partenaires dans notre province.
Avant cette sensibilisation, comment s'est comportée la population du Sankuru vis-à-vis de la biodiversité?
Non, mais comme vous le savez, la province du Sankuru est l'une des provinces de notre pays qui regorge une biodiversité et des richesses fauniques énormes. Mais le problème, c'est que nous avons aussi fait notre plaidoyer auprès de l'ICCN pour que l'ICCN installe ses installations provinciales chez nous. Et ce sont les gens qui sont des techniciens qui peuvent encadrer ces richesses-là. La population n'est vive que de la forêt. Donc c'est difficile de les empêcher sans sensibiliser au préalable comment ils doivent se comporter, comment ils peuvent être encadrés.
Selon vous, ça sera comment alors que vous venez de participer déjà à ces assises? Je pense que c'est déjà un pas.
Absolument. Nous avons donné notre disponibilité au nom de la population du Sankuru à ce que la population du Sankuru accepte d'écrire une nouvelle page avec l'ICCN, avec le PNL et ses partenaires, l'ICCN et ses partenaires dans le domaine de la conservation de la nature chez nous. Voilà.
C'est-à-dire, vous sortez avec un engagement, vous aussi, de sensibiliser votre population pour le bien-être du parc national de la Lomami.
Absolument, absolument, parce que nous sommes aujourd'hui intégrés dans les réseaux parlementaires pour la conservation de la nature. C'est une structure qui venait d'être créée pendant ces assises. Donc, c'est une innovation pour le parc national de la Lomami d'avoir créé un réseau parlementaire pour la conservation de la nature dont les députés du Sankuru font partie. Donc, aujourd'hui, nous pouvons effectivement collaborer, institutions et l'ICCN.
C'est-à-dire la congestion du parc national de la Lomami sera aussi votre affaire?
C'est notre souhait.
Mais pourquoi dans votre adresse, vous avez déploré le fait que la population du Sankuru, une fois arrêtée, est jugée au maniement?
Oui, nous avons déploré cette pratique qui consiste à arrêter les gens dans la province du Sankuru et venir les juger dans la province du Maniema. C'est une violation de la loi parce que les juridictions des jugements, comme je l'ai dit dans la salle, ont une compétence territoriale. Et donc, les gens qui sont arrêtés dans la province du Sankuru peuvent être jugés dans la province du Sankuru parce que les lois congolaises sont les mêmes.
Et quelle a été la réaction des autorités de l'ICCN?
Non, c'était une observation que les autorités de l'ICCN doivent intégrer dans leur plan opérationnel de l'année 2025.
Et cela posait quoi comme problème?
Non, mais cela prouvait un mépris, une irréconnaissance de la part des autorités de l'ICCN qu'il existe une province dans laquelle ils ont des activités, la province du Sankuru.
Alors, Monsieur Lambert, vous avez représenté valablement la population du Sankuru à ses assises pour une meilleure protection du parc national de la Lomami. Qu'est-ce que vous dites à cette population?
Le message à la population du Sankuru, c'est que nous devons écrire une nouvelle page pour de nouvelles expériences avec l'ICCN dans notre province. Voici le message principal.
Cela aidera à quoi et pourquoi écrire une nouvelle page?
De pour parler Sankuru. Je pense que je ne saurais pas tout dire ici, mais c'est que je reconnais effectivement que la collaboration entre l'ICCN et la communauté locale n'était pas aisée. Cette collaboration n'était pas rose, mais aujourd'hui, on accepte d'écrire une nouvelle page, c'est que cette nouvelle page sera remplie de nouvelles expériences.
Quel serait votre engagement après ces assises?
Engagement, c'est de travailler dans le cadre de réseaux parlementaires pour la conservation de la nature, pour que la conservation devienne une affaire de tous.
Monsieur le député Lambert Makondjo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Au nom de Pele Kipela Mondo, de Richard Junior Kamunga et de Debs Vita, je vous dis merci de l'avoir suivi.